Vale.
Bonsoir à tous. Voilà, le générique est pas parti.
Le générique est pas parti, Ivan.
Mais non, c'est le printemps en plus. Hein.
C'est le printemps et les Bleus ont gagné.
Et les Bleus ont gagné, ça c'est, c'est une bonne nouvelle quand
ça
même.
Ça met du baume au cœur.
Voilà.
Donc, vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio française de Auckland. Bonsoir, Kiora. Et on a un plateau rempli de personnes intéressantes ce soir, donc je me réjouis. On va parler de choses.
Il n'y a que des femmes, hein.
Il n'y a que des femmes. Ouais, Ivan, tu étais bien entouré quand même.
Ben oui, c'est vrai.
Ouais. Alors, au programme ce soir, nous allons parler fromage avec Annabelle.
Bonsoir.
Parce qu'Annabelle fait ses propres fromages artisanaux à Auckland. Et c'est quelque chose d'intéressant à savoir pour nous Français, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et nous allons après aborder un autre sujet, différent, mais très important. C'est la ménopause qui va être abordée par Guillemette, qui est thérapeute holistique, et Nadine, professeure de yoga, qui toutes les deux aident les femmes à passer cette transition. Importante, on y passe toutes, hein. Il n'y a pas photo.
Pas moi.
Ouais, pas toi, d'accord.
Quoi, l'andropause.
L'andropause, alors voilà, c'est l'andropause.
C'est l'équivalent pour les hommes.
C'est la prostate, c'est ça.
T'es pas oublié, Ivan.
Non.
Il peut y avoir des symptômes liés à la prostate, effectivement.
D'accord, on va pas en parler ce soir. On va se concentrer sur la ménopause. Alors.
Est-ce qu'on commence par une petite musique?
On va commencer par une petite musique. Hein.
Qu'est-ce que tu nous as concocté?
Ben, on verra. Hein.
Tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Il faut subir tous les jours, il faut subir. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. On va crever tous un jour, on va crever. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer.
Voilà, c'était Manu Chao, extrait de son album Tout en français.
Tout en français.
Qui a été donné gratuit avec un magazine à l'époque.
C'est vrai ?
Ouais. Je ne me rappelle plus le nom du magazine, mais le CD était donné gratuit.
Ça, c'est bien.
Voilà.
Moi, j'aime bien Manu. Pendant qu'on a la chanson passée, on parlait fromage, parce qu'Annabelle est arrivée, et puis, ça intéresse beaucoup les Français. Donc, moi, je t'ai rencontrée tout à fait par hasard, Annabelle, dans une soirée, et effectivement, dès que tu as commencé à parler de tes fromages, tout le monde a écouté, et on t'a posé plein de questions. Alors, déjà, est-ce que tu étais fromagère depuis le début, ou c'est quelque chose qui t'est arrivé ici en Nouvelle-Zélande ?
Non, j'ai jamais été fromagère. Je suis food technologist, en français, c'est ingénieur agro,
ouais,
à la base. Mais j'ai toujours été passionnée par le fromage. J'ai toujours adoré manger du fromage. Enfin, je pense que tous les Français adorent ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais je savais pas trop par où commencer. Donc là, dans ma carrière et ma vie personnelle aussi, j'étais à un moment un peu de transition. Je me suis dit bon, c'est maintenant, on va essayer. Et du coup, j'ai quand même, dans ma carrière d'ingénieur agro, fait des fromages pendant presque 10 ans. Donc je me suis quand même formée et j'ai une bonne notion de comment faire des fromages, disons.
Ouais.
Et du coup, j'ai juste commencé à potasser le projet il y a 6-8 mois, à peu près.
Parce qu'il y a des régulations, enfin des régulations, oui, oui. En Nouvelle-Zélande, ouais, pas ouais. Mal de normes. Donc
Oui, ça, c'est un peu technique. Donc, dans mon boulot en ce moment, parce que je suis encore employée, j'étais technical manager et je m'occupais de tout ce qui était compliance, qualité, regulatory, tout ça. Donc j'ai un bon savoir dans ce domaine-là.
Ce qu'on peut, ce qu'on peut pas.
Voilà.
Ouais.
Et effectivement, il y a beaucoup de règles, surtout pour tout ce qui est fromage, par rapport à la France, par exemple.
Est-ce que c'est des règles abusives ou pas ?
Oui, je pense. Ouais. Bah, venant de France, surtout quand on sait comment les fromages sont faits en France et...
Ouais.
Et ce qui donne le côté artisanal et unique à chaque fromage, et que là, en Nouvelle-Zélande, c'est très très difficile de
faire. Et ça pourra changer, tu penses, ou ils sont trop.
Ça va mettre beaucoup beaucoup de temps, je pense. Parce que les gros fromagers, c'est eux qui font les règles, plus ou moins.
Ah ouais,
les gros fromagers, c'est Fonterra, Goodmanfield.
Enfin, c'est pas le gouvernement qui fait les règles ?
Ben si, mais ils ont des groupes d'experts. Voilà, et les experts, c'est les fromagers qui sont les plus présents sur le marché.
Ouais.
Ceux qui ont le plus de sous, forcément. Donc, le plus de scientifiques, le plus de ceux qui font les recherches, etc. Donc, ils discutent avec le gouvernement pour faire en sorte que les règles, pas qu'ils les arrangent, mais les règles qui pour eux, marchent dans leurs produits.
Ils vont pas faire des règles contre eux. Ouais.
Voilà, donc, c'est Et puis la Nouvelle-Zélande apprend également, donc comme le marché du produit laitier en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment à l'export, c'est des gros volumes, enfin ça n'a rien à voir avec le produit laitier en France où c'est que des tout petites fermes. En France ici, c'est des fermes de 1000 bêtes minimum, quoi. Donc du coup, il faut des infrastructures très différentes, donc il faut des contrôles beaucoup plus stricts en fait, parce que le risque est beaucoup plus grand. Comme quand tu as une ferme de 1000 vaches, si tu fais du lait pour, je sais pas combien de personnes ça nourrit, mais bon, t'as un risque beaucoup plus grand de rendre les gens malades. Alors que si t'es une toute petite ferme en France, un tout petit producteur qui vend ses fromages que dans un marché, bon, le risque est moins grand. Donc je pense que la France, et puis c'est tellement quelque chose qu'on fait depuis des années.
Oui,
des
voilà, l'histoire
France,
est différente.
Voilà.
Ouais, ça,
l'histoire
c'est,
est très différente.
Ça, c'est donc, facile autrement.
En Nouvelle-Zélande, ils sont beaucoup plus. Comment on dit, pas préventif, mais enfin,
oui,
voilà.
Attention.
Ils font très attention. Puis
et donc tu as trouvé une niche dans laquelle tu pouvais t'engouffrer, une demande qui n'était pas satisfaite.
Oui, j'essaye. Enfin, comme c'est vraiment le tout début, parce que j'ai créé mon entreprise qu'au mois de mai, donc c'est vraiment tout récent, et j'ai eu mon notification of registration, donc
ouais.
Le droit légalement de pouvoir vendre mes produits qu'il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc c'est vraiment tout, tout nouveau. La niche dans laquelle j'ai voulu me placer, c'est pour les restaurants et pour les cafés, parce qu'ils ont très peu de choix en fait pour tout ce qui est fromage à cuisiner. Tout ce qu'ils ont, tout ce qu'on leur donne, c'est des choses qui sont faites très industriellement, qui ont des épaississants, des émulsifiants,
saveur, plus,
des additifs en fait pour maintenir le produit Ouais. Voilà quoi. Donc c'est un produit qui a une très grande durée de vie et qui.
Et donc toi, tu es artisanale, tu voilà. utilises des produits.
J'utilise du lait tout simplement ouais. avec du sel et des ferments lactiques. Donc je mets aucun additif, aucun.
Conservateur. Ouais, ouais.
Je cherche mes mots.
Et donc. Donc forcément le goût est différent et je pense que ça doit séduire pas mal les...
Voilà, le goût est ultra frais en fait parce que les produits, donc je vais chercher mon lait le dimanche aujourd'hui, je vais aller chercher mon lait, je le traite demain, le lundi, et le mardi il est en fromage et je peux le livrer dès le mardi. Donc c'est des produits qui sont ultra frais, donc les chefs n'ont pas accès à ça à Auckland. Il y a des petits fromagers qui existent en Nouvelle-Zélande, mais la plupart sont là où les animaux sont, c'est-à-dire dans l'île du Sud ou à droite à gauche en Nouvelle-Zélande, mais donc il faut rajouter 2 jours de transport.
De transport, ouais. Alors que toi, tu es sur place.
Alors, moi, je suis sur place.
Mais tu fais ça dans ta maison ou
Non, je ne fais pas ça dans ma maison. Donc je loue une cuisine commerciale qui est dans le centre Community Center de Glenfield, dans le North Shore.
Ouais.
Et donc c'est une cuisine commerciale toute simple, hein, parce que pour faire du fromage, en fait, c'est très simple. Quand on est à petite échelle et artisanale, on a juste besoin d'un pot. D'une casserole, d'une marmite et puis de quelques...
Et des produits de qualité.
Voilà, ouais. Quelques 2-3 trucs et en fait c'est assez simple de faire des bons fromages quand on a la bonne matière première. Donc
ouais.
Moi je vais chercher mon lait dans des fermes locales autour d'Auckland. Les toutes petites fermes qui ont une à 15 bêtes je crois et l'autre en a 40. Donc c'est vraiment tout petit. Et ça veut dire que c'est des producteurs qui ont très à même du bien-être des animaux. Donc, ils sont vraiment...
Ouais, c'est important aussi.
C'est important, ouais. Voilà. Et ouais, c'est ouais. quelque chose qui est très important pour moi. C'est des animaux, comme ils disent, pets, plus que des animaux de ferme, en fait. Enfin, ils ont tous un nom.
Il ouais, y a un
ils
aspect
font des
humain,
câlins.
Ouais.
Enfin.
Ouais, bah, ouais,
c'est pas du rendement. C'est pas du rendement. Donc,
et tu fais du fromage de chèvre ou de...
Alors, je fais chèvre et brebis.
OK.
Ouais. Voilà, je fais chèvre et brebis. C'est aussi quelque chose d'assez niche parce que chèvre et brebis.
On en trouve moins.
Il y en a qui beaucoup mais d'exporter, donc c'est des qualités beaucoup moins bonnes.
Tu as dû toutes les goûter.
Oui, ou, oui, j'ai fait mon petit benchmark.
Ouais.
Ouais, j'ai goûté tout ce qu'il y avait. Donc il y en a beaucoup de Bulgarie, d'Europe de l'Est, qui est pas trop cher, mais qui reste quand même cher. Bon, la qualité, ouais, c'est pas du frais. Et,
est-ce que c'est un choix de faire du fromage, pas de vache
et de... Oui, c'est un choix, ouais. J'adore les moutons.
Ok.
J'ai toujours été passionnée des moutons, donc je voulais faire uniquement de la brebis. Et puis quand j'ai fait un peu mon étude de marché, j'ai vu que j'irais pas très loin avec de la brebis parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. Les gens ne sont pas forcément très intéressés de déguster de la brebis. Différent. Ils se demandent qu'est-ce que c'est la brebis, ça va avoir goût de la laine. Enfin, ça, les kiwis sont un peu rebutés par ça.
Et les chefs aussi
Les chefs, ça dépend lesquels.
Ça dépend lesquels. Ouais. Donc tu en as rencontré combien
Pour l'instant, j'en ai rencontré 6. Donc c'est encore les débuts.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et j'ai aussi contacté des glaciers. Donc, qui font de la glace. Parce que le fromage de mouton est très, très riche en gras. Beaucoup plus que la vache. Et que la chèvre également. Et donc, avec ça, on fait un produit super au niveau des glaces. Parce que c'est très crémeux, très onctueux. Et ça a un goût. Alors, contrairement aux idées reçues, le lait de mouton n'a pas du tout goût de mouton. Ça a un goût de vanille. C'est hyper crémeux. C'est délicieux.
Ouais, je voulais juste te demander si ça avait un rapport avec le professeur en France de médecine, professeur Joyeux, qui est à Montpellier, qui disait qu'il fallait arrêter de consommer les laitages.
Ah oui, non, alors aucun. Je sais, non, j'ai pas du tout suivi ça non plus.
Non. Je pense que le message n'a pas dû arriver en Nouvelle-Zélande, puisque les Néo-Zélandais sont très friands
de produits laitiers, ouais.
Produits laitiers et de viande.
Et de viande. Bah ça, oui, ça s'inscrit pas dans la démarche vegan et tout ça, ça c'est sûr, parce que ce produit laitier, c'est l'élevage des animaux. Après, au niveau de l'environnement, tout ce qui est production de vaches est beaucoup plus demandeur en énergie que production de lait de brebis ou de chèvre, parce que c'est des animaux plus petits qui produisent beaucoup moins de lait que les vaches, donc il y a besoin de moins de matières premières, etc.
Alors moi j'ai une question intéressée, les glaces, enfin le lait que l'on pour les vaches, on trouve ça où?
Le lait pour...
les glaces,
pour l'instant,
en fait,
je ne sais pas encore s'ils vont les faire, je leur ai fourni des échantillons, donc j'attends.
D'accord.
Je croise les doigts.
Donc donc c'est en train de tu commences.
Je commence. Oui, je me lance.
Et pour les particuliers, donc
les Français alors pour les particuliers, pour l'instant, je vends dans ma maison. Donc en fait, j'ai mon cercle d'amis auquel je vends très régulièrement mes fromages. Donc ils viennent chez moi, ils me déposent leur boîte, je les remplis. Et ils reviennent les chercher ensuite.
D'accord. Et voilà. Tu es demandeuse pour ce genre de clientèle ou
Oui, tout à fait.
Parce qu'on mettra ton site internet sur le.
Oui, tout à fait. Bon, c'est très simple pour moi puisque je le fais à partir de la maison. J'ai pas de shop évidemment. Et la raison pour laquelle je mets pas vers les particuliers, c'est parce que je veux pas vendre mes fromages avec le single use plastique, donc les emballages à usage unique.
Ça, c'est bien aussi.
Donc, je suis dans cette démarche où je veux réutiliser des boîtes. Donc, je vends mes produits dans des boîtes qui sont consignées. Je les fais payer. Ensuite, les gens, soit ils les gardent, soit ils me les rendent. Et ça veut dire que j'ai aucun packaging, aucun déchet non plus. Mm-hmm. Et que les consommateurs n'ont aucun déchet non plus chez eux.
Ah, c'est une production responsable, quoi.
Voilà, ouais. Voilà. C'est quelque chose qui est cher à mon cœur, à moi. Donc je veux m'inscrire là-dedans. Du coup, c'est un peu plus difficile pour atteindre les particuliers. Donc je dois trouver des moyens.
Après, il faut les particuliers qui sont dans les mêmes.
Je ne fais pas les marchés. Non, ça, c'est une question de vie de famille. J'ai une famille jeune et je ne veux pas m'investir le week-end. Voilà, on ne peut pas tout faire. Donc,
Tes enfants, ils sont nourris au.
C'est ça. Et toute la famille boit du lait de mouton. On n'achète plus de produits de vache, en fait.
Ouais.
Du tout.
Ouais.
Sauf du beurre, c'est peut-être.
C'est peut-être bon pour la ménopause. Pour,
ça, je ne sais pas.
Pour l'avoir plus tard, non, je sais pas.
Alors, là, tu nous fais une transition.
On a des spécialistes, ils pourront nous dire.
Ouais, on va passer.
Moi,
là.
J'ai une question à poser au niveau de la régulation. Je sais que pour le lait de vache, il y a beaucoup de régulations et les gens n'ont pas le droit de vendre à partir de leur ferme, souvent.
Oui,
donc alors, la régulation est différente pour toi ?
Oui, parce que moi, je pasteurise le lait, je fais rien au lait cru.
D'accord.
Parce que justement, les régulations sont trop drastiques. Dragonienne ?
Okay. L'un des deux. Les deux.
Ça devient très difficile. Et puis, il y a des risques, finalement, avec la consommation du lait cru, surtout dans les produits que je fais, parce que ce sont des produits frais, qui n'ont pas une durée de vie longue. Les produits, les fromages à pâte pressée, qui ont beaucoup de sel, qui sont affinés pendant des mois et des mois, il y a très peu de risques. Mais moi, qui fais du produit très frais, il y a beaucoup plus de risques. Donc, je ne touche pas au lait cru. Je l'achète cru, mais je le pasteurise. D'accord. Donc, dans ces cas-là, la régulation, elle est différente. Mmh. Les réglementations sont différentes. Et je peux en acheter autant que je veux. Par contre, si on est un consommateur lambda qui veut acheter du lait cru, on a le droit de prendre, je crois que c'est 7 litres par semaine, par personne, ou quelque chose comme ça. Donc, très peu. Enfin, pas assez pour faire du fromage vraiment de manière significative.
Est-ce que tu fais du fromage qui ressemble à l'époisse ?
Non, je ne fais pas du tout de fromage affiné.
Ah oui ?
Non.
Et même pour toi, pour ton état vitamine ?
Ben, si, chez moi, j'en ai un peu. C'est pour ma consommation personnelle, mais c'est vraiment un fromage par-ci, un fromage par-là.
Ouais.
Parce que j'ai pas. Le problème avec l'affinage, c'est qu'il faut des caves, il faut des salles. Contrôler ou alors une cave qui garde la
humidité, la chaleur.
Il faut des conditions très précises. Et ouais, ça, au Gland, c'est très difficile à avoir parce que fait chaud.
Et comment ça se fait qu'on trouve beaucoup de fromages de Puyol ?
De Puyol, dans les supermarchés ?
Oui.
Ben, c'est Goodman Fielder, c'est un gros producteur. C'est un des deuxièmes.
Qui se trouve à Puyol ?
Alors, oui. Ils ont une factory, une usine à Puyol.
Je crois qu'il y avait plein de petits producteurs qui étaient à Puyol. C'est une grosse entreprise.
Ouais. Oui, ils font partie de Goodman Fielder. Donc, c'est un des gérants du dairy en Nouvelle-Zélande. Ouais.
L'industrie.
Bien.
Moi, j'ai une autre question pour qu'on puisse avoir du lait de vache. Et en fait, ça n'avait pas tellement longtemps, ça doit faire une dizaine d'années que j'ai compris que pour que nous, on ait eu du lait de vache, ils enlevaient les veaux.
Oui.
Et comment ça fonctionne avec toi ?
Alors, c'est pareil. Donc, plus ou moins, comme c'est des toutes petites fermes, elles le font différemment, j'imagine. Je n'ai jamais vraiment vu, été confrontée à comment ça se passe avec les vaches. Mais avec les chèvres, les deux fermes avec lesquelles j'opère, les petits restent avec leur maman. Et elles traient en même temps que le petit tête. Donc, c'est assez technique. Mais c'est là où il y a le plus de lait. Enfin, pour celles qui ont allaité, vous devez savoir ce que c'est. Et c'est là que le flot de lait passe le mieux. Ensuite, bon, bah, au fur et à mesure, elle les sèvre.
Oui, ils sont sevrés.
Et bon, ouais. Les petits s'en vont et elle continue de traire les mamans. Ouais. Les femelles sont gardées. Les mâles, elle les revend en général dans des lifestyle blocs, donc des gens qui veulent avoir des animaux chez eux, sur leur grand terrain, à la campagne, comme elles habitent quand même à la campagne, donc elles sont entourées de maisons comme ça. Ou elle m'expliquait aussi qu'il y avait des agneaux qui partaient. Ils ont des Hack Day ici, c'est pour les élèves, pour les enfants qui apprennent le métier de fermier, tout ça. Enfin, les enfants.
Donc c'est étudiants. Pédagogique aussi.
C'est pédagogique.
Ouais, ouais. Ah, mais c'est ça fait du bien d'entendre. Que les choses se font de manière humaine, responsable. Ouais. C'est
oui, c'est quelque chose que j'ai ouais. sélectionné. J'ai essayé d'autres fermes et quand j'ai vu les méthodes,
ouais,
non, je suis pas sûre que ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de soutenir.
Ouais. Ah bah, merci beaucoup Annabelle, parce que bon, quand on mettra tes détails sur le blog. Tu as une petite musique pour nous, pour
oui.
Oui, comme toujours.
De l'air, H comme la hache de guerre, T, R, H, D comme je t'ai dédé, R comme je t'ai à terre, H comme payer moins cher, T, R, H, D, déconnecté, R, brasser de l'air, H, la hache de guerre, T, R, H, D, je t'ai dédé, R, je t'ai à terre, H, payer moins cher. Si ça casse, et tant pis si ça tue. T comme déconnecté, R comme brasser de l'air, H comme la hache de guerre, T, R, H, T comme je t'ai dédé, R comme je t'ai à terre, H comme payer moins cher.
La finir quand même, Anaïs, la pauvre. Hein?
Anaïs.
Anaïs.
Non, mais parce que on voulait juste rajouter un détail, parce que forcément, le sujet, on a continué à en parler. Un autre avantage d'utiliser un lait de brebis, c'est que, effectivement, ce lait est beaucoup plus adapté aux êtres humains que le lait de vache. Et donc meilleur pour nous. Donc c'est encore plus un
adapté,
plus.
Plus adapté, encore ça veut dire moins pire. Hein. Il y a
moins
aucun
pire.
Animal qui boit le lait
le
d'une
lait
autre
d'un
espèce.
Autre,
hein.
Tout à fait. Ça, c'est vrai.
Donc c'est quand même pas idéal, mais enfin en termes de gourmandise, c'est vrai que la physiologie du corps humain est plus adaptée peut digérer,
on peut digérer
plus correctement,
mieux, plus facilement, ouais. Beaucoup plus rapidement. Ouais.
Et c'est bon pour la ménopause. Hein.
Oui, alors on va aborder. Donc,
il y tient.
Bah, il va
c'est un peu pour ça que t'es venu, non?
C'est bien.
Tout à fait, tout à fait.
Donc, Guimette, tu es déjà venu à la radio, donc tu as déjà parlé de ton parcours. Donc, tu es thérapeute holistique.
Voilà.
Tu fais plein de choses. La ménopause fait partie également des choses que tu peux traiter.
Des problématiques de mes clientes, en fait.
Oui. Parce que c'est un problème, la ménopause ?
Eh bien, ça peut l'être, oui, en fait. Ça peut l'être pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a un aspect culturel assez fort qui dit que la ménopause, il y a vraiment... c'est la fin de la féminité.
Oui, c'est ça, c'est, elle est plus bonne à...
Donc, il y a un aspect culturel fort qui fait qu'il y a beaucoup de femmes, à ce moment donné de leur vie, qui vont développer des symptômes qui seront là pour les rappeler à la vie, en fait. Pour les rappeler.
Ah, c'est de l'angoisse alors, hein. C'est une certaine angoisse.
Et ben, en fait, en jouant sur, en agissant sur la manière dont vous appréhendez la ménopause, on peut agir sur les symptômes. Ouais. C'est tout le sujet de la médecine du sens, avec laquelle je travaille beaucoup pour ouvrir les messages du corps et pour accompagner la guérison.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on, maintenant avec les progrès, où on parle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans, j'imagine, ou 30 ans, est-ce qu'on est un peu plus, les femmes sont un peu plus prêtes à ça, ou c'est toujours la même surprise quand ça arrive, ou
Je pense pas que ce soit une surprise quand ça arrive, même si effectivement, malheureusement, il y a moins de transmission de grand-mère à mère, de mère à fille au sujet de la ménopause, puisqu'on vit de manière beaucoup plus individuelle. Après, est-ce que c'est verbalisé plus que ça? Ça a été en tout cas pris à bras le corps par la médecine, hein, puisqu'on a droit au traitement hormonal substitutif qui a été bien développé et bien distribué, notamment dans les années 80-90, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça faisait plus de dégâts qu'autre chose. Donc ça s'est encore amélioré aujourd'hui et c'est plus systématique.
Ouais.
Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de silence autour de la ménopause.
Donc la ménopause, c'est lorsqu'on ne peut plus avoir d'enfants.
La ménopause, de manière strictement biologique, c'est l'arrêt des menstruations. Donc c'est une chute hormonale, c'est un séisme, quoi, hormonal. Et donc, un peu comme... Le cycle menstruel, il va mettre 2 ans à se mettre en route. Quand les jeunes filles ont entre 12 et 17 ans, etc. Bah, la ménopause, c'est pareil. C'est une phase avec l'arrêt du cycle menstruel qui va mettre 1 an ou 2 à retrouver son équilibre, un nouvel équilibre hormonal.
Ah oui, donc c'est 1 an ou 2 où on doit voguer avec...
C'est pas on doit, en fait, on ne subit rien. Hein. C'est un processus physiologique qui existe,
ouais.
Qui va être aménageable en fonction de votre état d'esprit, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de l'exercice physique que vous faites, en fonction de vos rêves, de vos appréhensions, etc. Mais on en a déjà parlé ensemble, elle sait. C'est vrai qu'on peut ne pas subir son corps, en fait. C'est une étape dans la vie d'une femme, comme l'a été la maternité, comme l'a été les premières règles.
Oui, c'est, voilà. C'est, ça arrive. Donc moi, quand on me dit ménopause, je pense à bouffée de chaleur. C'est la seule chose dont on m'a parlé quand j'ai vu des femmes qui avaient ça, c'était ça. Donc je m'imagine des bouffées de chaleur, mais j'ai du mal à comprendre en fait ce qu'on...
Bah, en fait, avant de venir, j'avais posté sur mes réseaux sociaux, avec, pour vous les mesdames, c'est associé à quoi la ménopause? Et sont ressorties les bouffées de chaleur, mais aussi beaucoup l'ostéoporose. Ostéoporose très liée à la consommation de lait et de calcium pendant la vie. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'ostéoporose est très présente dans notre culture d'occidentaux. Mais en Orient, comme ils consomment pas ou peu, même si maintenant ça arrive, ils commencent à consommer du lait. Jusque-là, ils n'avaient pas du tout d'ostéoporose.
Pas ce problème.
Il y a vraiment un lien de cause à effet. Il y a tout ce qui est sécheresse vaginale, puisqu'il y a une vision de comme c'est l'arrêt des menstruations, c'est l'arrêt de la fécondité, au sens de je ne peux plus avoir un bébé. Et c'est malheureusement associé à l'arrêt de la sexualité. Or, c'est pas vrai du tout. C'est pas parce que il y a plus de menstruation que
y a plus
la
rien.
Sexualité ouais. n'est plus possible.
Ouais, mais il y a peut-être aussi un lien culturel très fort.
Et voilà.
Ouais.
le poids des religions, etc.
Oui, oui, oui. Donc, d'accord. Donc, il y a des changements physiologiques. Psychologiquement, ben, on a tout ça qui arrive. Donc, on le vit plus ou moins bien.
C'est un appel, en fait. C'est un appel. Alors, j'aimais bien le découpage en langage des oiseaux. On entend « men », M-E-N, plus loin « oppose », comme une opposition avec l'homme. Et en fait, on est sur cette histoire de pause pour faire un peu le point sur notre équilibre féminin-masculin dans nos vies. C'est comme si, dans une première partie de notre vie, on était très tourné vers le masculin au sens de l'action. On est en train de construire notre vie, on est hyper dynamique, on met des choses en place, on produit. Et qu'à partir de la ménopause, il y a ce moment de pause, de retour sur soi, en disant « alors attends, qu'est-ce que j'ai fait ?» Est-ce que ça correspond à ce que je voulais réaliser dans ma vie? Est-ce que mes rêves se sont éloignés ou est-ce que je suis toujours dessus? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Et dans cette deuxième partie de la vie, qui peut durer 40 ans hein, quand même aujourd'hui, on ouvre vers le féminin en disant bon, bah, c'est le temps de l'accueil, c'est le temps pour moi en fait. On n'est plus tourné vers l'autre, la famille est construite, les enfants sont grands. Quand il y en a eu, il y a vraiment la carrière presque aussi a été faite. Il y a vraiment une page qui se tourne. Et ce deuxième temps, c'est le temps pour soi, pour grandir à l'intérieur de soi, jusqu'à l'archétype de la femme sage. Si,
Guillemette, est-ce que c'est dur pour les maris?
Écoute, j'en sais rien en fait. Dirais que par rapport à mes clientes,
c'est une bonne question, hein.
C'est une très bonne question. Je saurais pas te répondre parce qu'en fait, quand mes clientes viennent me voir avec des symptômes de ménopause, elles le prennent vraiment pour elles, en se posant la question de ce qu'elles veulent pour leur vie. Alors donc, oui, bien sûr, je pense que ça doit remuer au niveau des maris. Si ça fait 30 ans que vous êtes mariés avec un mec avec lequel, finalement, vous remplissez pas votre réservoir d'amour, vos désirs de vie, je pense que ce temps de la pause, de la remise en question, de retour sur soi, peut faire dire « Ah, yallah, je veux changer tout ça ». Après, ça peut être un super moment en disant bah, « C'est l'occasion de faire le point sur notre sexualité ». On va où, on fait quoi, allons explorer ensemble autrement. Donc ça peut être très bien pris par le conjoint.
Ouais, parce que les mecs, c'est pareil, ils ont quand même la crise un peu de la quarantaine ou...
Ou cinquantaine, ou enfin la midlife crisis.
Alors eux aussi, ils ont une chute hormonale qui est moins féroce, en tout cas moins visible que la ménopause, puisque pour eux, il n'y a pas d'arrêt de la menstruation. Chez eux, c'est entre 40 et 55 ans, effectivement. Mais c'est beaucoup plus doux. Mais c'est pareil, on est sur cette apparition du féminin. Donc du féminin dans ses valeurs d'accueil, dans ses valeurs de partage, dans ses valeurs émotionnelles, etc. Et donc tout se passera bien pour l'homme s'il accepte de faire grandir en lui, de faire vibrer cette énergie du féminin en lui. Ce qui culturellement n'est pas toujours facile.
Est-ce que ça correspond aussi à une période où les gens divorcent?
J'ai absolument pas comparé les chiffres.
Donc
j'ai pas de réponse.
Il y a beaucoup plus de divorces maintenant qu'il y a 50 ans.
Après, oui, ouais, c'est aussi l'aspect culturel aussi. On divorce moins. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu disais dans les années 80-90, on donnait des substituts aujourd'hui, qu'est-ce qui est recommandé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prendre pour
fromage de
chèvre. Rester
du fromage de chèvre, bien sûr. Après, il y a
aux
hormones. Après, bien sûr, comme on est sur une chute hormonale, un rééquilibrage hormonal, de toute façon, pour que les hormones continuent à être produites même en plus faible quantité et maintiennent le corps en bonne santé, c'est sûr qu'on peut trouver des solutions avec rien que l'alimentation, la manière dont on consomme, la manière dont on bouge. Et ça, Nadine en parlera aussi. Mais la manière dont on s'exprime, on a aussi aujourd'hui plein d'infos sur l'effet placebo, où on le reconnaît comme étant bénéfique. L'effet placebo, on est d'accord que c'est... être convaincu qu'un produit peut nous faire du bien
Et de fait,
ça marche. Ouais. Et donc, on peut, à partir de rien que de cet état de fait-là, comprendre que les pensées que vous allez avoir pour vous-même peuvent avoir un effet extrêmement bénéfique et extrêmement soignant pour votre corps à vous.
Donc, c'est vrai que c'est là, on part vers plus la méditation, le yoga qui peut aider. On va peut-être faire une petite pause musique, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire.
Tout à fait.
Ouais.
Et après, on pourra parler de la glande pinéale. Non ?
Pourquoi pas ? Je suis curieuse de voir ton choix de musique après ce que je viens de dire.
C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas le cul pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas le cul pour tous ceux qui n'en ont pas. Wenderio, Bacaria. Wenderio, Bacaria. La mer qui dit adieu a ramené sur la côte trois sardines édentées, un pêcheur dans les sargasses. Voyant la mer si haute, le pauvre type s'est noyé. Créateur, je te blâme. L'homme est sans nageoire, la nature l'a atrophié. Elle s'est pas sur ma macadam. C'est une jolie histoire, mais Jésus a coulé. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas le cul pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas le cul pour tous ceux qui n'en ont pas. Wenderio, Macarena. Paolo, ton vivant a échoué son bateau dans le vieux port de Nazaré et sa famille en mourant. Avalé par les flots, n'avait pas des larmes pour se noyer. Tu as présent de drague. Les deux pieds dans une botte, le pêcheur est repêché. Une andite zizague. Il touche pas, il mijote, c'est le fruit de la marée. C'est pas la mer à boire pour tous ceux qui aiment pas ça. C'est seulement pas du pour tous ceux qui n'en ont pas. C'est pas la mer à boire.
Ça, c'était l'encouragement de Ivan pour nous. C'est pas la mer à boire, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qu'on peut subir ou pas. C'est vraiment un choix qu'on fait. Ouais. Mais il faut être bien renseigné, je pense. Il faut quand même prendre le temps de voir ce qui est bon pour soi Et je pense qu'il doit y avoir de la littérature ou des revues, ou c'est pas tellement sujet qu'on apporte pas beaucoup dans les médias.
Je pense qu'il doit y avoir de la littérature sur le sujet, mais en fait, tout revient à la manière dont vous considérez votre corps et dont vous considérez la médecine. En tant que Français, nous, on a été éduqués sur une idée de médecin tout puissant et de dire que si ton corps il va pas bien, bah, tu vas t'en remettre à un expert pour qu'il va t'aider à aller mieux. Et on a un peu perdu la main, perdu la responsabilité sur notre corps. Et c'est intéressant ce que tu disais à l'instant en disant, ouais, ça relève du choix, ça relève de la décision.
Oui, donc une qualité de vie qu'on mène ou pas. Mm. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi un peu une connaissance des choses, parce que quand on...
De ton corps, surtout.
De ton corps, ouais. Mais quand on n'a pas l'éducation, qu'on sait rien de son corps, et que ça, c'est comme pour les menstruations, si jamais on en a parlé avant, ce qui a été un peu mon cas, ça a été un gros choc quand c'est arrivé. Mmh. Et effectivement, maintenant, je sais que... Bon, j'ai des garçons, mais...
Il faudra qu'ils soient briefés aussi.
Voilà, qu'ils soient briefés, mais... c'est pour ça, donc c'est bien de s'informer, mais et puis après on a les cultures aussi où certaines femmes ont accès à l'information, d'autres c'est plus compliqué. Donc ouais, donc on a la chance nous d'être dans une culture où on peut se trouver des plein de choses. Donc en parlant d'accompagnement, Nadine, toi tu...
Donc moi je suis prof.
Tu aides des femmes.
Bah, j'aide des femmes. La plupart de mes étudiants sont des femmes, on va dire à 90%. Et les femmes avec lesquelles je travaille ont entre 30 ans et je dirais j'ai la femme la plus âgée doit avoir 75 ans. Et donc c'est complètement dans la période dans laquelle soit les femmes commencent le yoga parce qu'elles commencent à expérimenter les effets de la ménopause et elles cherchent des méthodes alternatives pour les aider.
Oui.
Ou déjà des gens et des femmes qui ont déjà la ménopause. Mais c'est pas forcément un sujet qu'on parle ouvertement forcément en classe. Mais c'est un sujet moi qui me passionne d'autant plus parce que c'est la période dans laquelle de ma vie en ce moment je suis en train de traverser et forcément j'enseigne souvent ce qui m'intéresse.
tu en parles avec un grand sourire, donc c'est plutôt rassurant de...
oui, même si j'ai un peu chaud, je dirais j'ai un peu une bouffée de chaleur, mais j'en parle avec le sourire parce que c'est un sujet qui en ce moment m'intéresse et me passionne. Et en fait, moi, ça m'est arrivé, j'ai 45 ans, et j'ai eu des bouffées de chaleur à l'âge de 42 ans. Et c'était pas beaucoup trop tôt. Donc j'ai contacté ma mère, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu que c'était génétique, est-ce que t'as eu une ménopause tôt aussi? Elle me dit, non, pas du tout, dans la cinquantaine. Et donc ça a été vraiment un bouleversement, et surtout beaucoup de questions. Et comment après appliquer ce que moi j'enseignais à travers le yoga pour moi-même? Donc ça a été grâce au yoga et c'était aussi grâce à la médecine ayurvédique, qui est une médecine indienne. Et là, j'ai eu des résultats absolument phénoménaux.
Donc ça veut dire que les Indiens sont bien avancés aussi sur...
C'est une méthode différente de soigner. Donc, Guillemette parlait un petit peu de la référence par rapport à la France. Ouais. La méthode, par exemple, ayurvédique, c'est on prend la personne dans son tout. Donc, pas uniquement son aspect physique et ses symptômes mécaniques, mais on travaille sur le côté mental, émotionnel, énergétique. Et il travaille beaucoup sur l'alimentation. L'alimentation, la manière de manger, il utilise beaucoup d'épices et aussi avec des supports d'herbes. Mais simplement en changeant la manière de manger et les suppléments, par exemple, alimentaires. Moi, en 4 jours, il n'y avait plus de bouffée de chaleur. Donc, ça a été vraiment incroyable. Et après, c'est comment moi, avec ma pratique yoga, je me suis dit, comment moi je peux appliquer ce que j'ai appris depuis une dizaine d'années pour moi-même et pour les autres.
Et donc, tu as expérimenté sur...
Et moi, j'expérimente en ce moment sur moi. Donc, c'est moi le cobaye. Et là, j'ai fait pas mal de recherches récemment parce que je suis en train d'essayer de lire un peu tout ce que je peux trouver sur la ménopause. Et il y a une manière de voir les choses qui m'a assez frappée. En yoga, on voit la personne comme un oignon. Donc, en fait, il y a plein de couches sur un oignon. Mm-hmm. Et on commence sur la couche extérieure, en fait, de l'oignon, qui est l'aspect physique.
Ouais.
Et donc, comment le yoga, avec ses postures, peut aider. Les gens pensent yoga, ils disent, c'est sur les muscles, c'est sur les ligaments. Mais en fait, le yoga, ça travaille sur tout le corps. sur le système digestif, sur le système respiratoire, sur le système cardiovasculaire. Mais le plus important au sujet de la ménopause, ça va être le système endocrinien. Et là, Yvan parlait tout à l'heure de la glande pinéale, donc c'est intéressant parce que en yoga, on travaille beaucoup sur la glande pituitaire, qui est pas très loin. Et la glande pituitaire est celle qui va délivrer les hormones. Et donc, certaines postures vont être favorables pour justement stimuler ces hormones. Donc, les inversions, la tête en bas. Après, le yoga va travailler sur le système nerveux. Oui. Et donc, par exemple, tout ce qui est en période de ménopause, Guillemette mentionnait le moment de... C'est le moment de faire une pause.
Est-ce qu'il y a des sautes d'humeur ou...
Bah, oui, parce qu'en fait... Autant quand tu étais menstruée avec des règles tous les mois, ça faisait un peu comme une soupape d'évacuation de tes émotions.
Oui.
Parce qu'on parle du syndrome prémenstruel ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, il y avait comme un circuit, comme un cycle où tu pouvais évacuer tes émotions. À partir du moment où il y a arrêt des menstruations, il y a comment tu vas décider d'évacuer tes émotions. Donc on peut parler de saut d'humeur forcément à ce moment-là, ça dépend ce que tu choisis.
Donc tu fais une pause, mais en même temps, ouais, effectivement,
c'est un rééquilibrage.
Ouais.
Il faut retrouver un nouvel équilibre. Et c'est pour ça que le yoga c'est bien pour ça,
parce que au niveau de tes
émotions, ouais, des tensions, tu peux les lisser avec.
Quand on pense yoga, donc t'as les postures, c'est ce que les gens pensent en premier. Tu vois, ils s'imaginent, voilà, tu mets tes pieds derrière ta tête. Enfin, c'est pas uniquement ça, et loin de ça. D'accord. Ouais. Donc t'as la partie physique, mais après t'as la partie tout ce qui est émotionnel, mental, et c'est là que apprendre à gérer ses émotions, apprendre à prendre du recul, apprendre à accepter, apprendre à mettre les choses en perspective, apprendre à observer en fait.
Et c'est au lieu de réagir, ça, c'est un t'observes. Travail. Ouais, c'est un travail.
Et ça vient pas, voilà, ça vient pas du jour au lendemain. C'est beaucoup
pas
de pratique.
Du ciel. Malheureusement, non. Mais ça existe et ouais.
Bah ouais. c'est pour ça on parle dans le yoga, on parle de pratique, tu vois. Ouais. C'est pour ça tu pratiques, ok, une fois par semaine tu vas dans un cours, mais en fait le mieux c'est que tu commences à pratiquer pour toi. Donc si t'as des symptômes de la ménopause, tu vas dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Donc tu as une petite routine qui va t'aider, d'accord. Et souvent la routine c'est justement de faire moins, donc c'est pas une routine hyper dynamique, c'est au contraire on met les pieds au mur, tu vois, tu t'allonges par terre, tu mets tes pieds au mur. C'est calmer le système nerveux, en fait. Et c'est ça qui est important.
C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire passer du côté masculin, où on est toujours dans l'action, dans un yoga hyperactif, à un espace plus posé, plus calme, vers ton féminin. De l'intérêt d'une pratique plus individualisée, finalement, plutôt qu'une pratique de groupe.
Oui, effectivement.
Donc, tu vois, ça, donc tu fais ta pratique, tu fais tes postures, mais en fait, il y a donc la deuxième couche de l'oignon, après... C'est ton côté énergétique. Donc ça, tu le vois pas, tu vois, c'est pas. Mais il est là.
Mm-hmm.
Okay. Comment est ton énergie? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Et donc ça, tu travailles avec le yoga sur ton énergie. Alors comment les gens trouvent leur énergie? Tu vois, généralement, ils vont dire bon, on va manger
du fromage.
Okay. Du fromage, voilà, c'est encore mieux.
Des glaces.
Tu vas boire ou des glaces. Mais en fait, il y a quelque chose qui est super important. C'est la respiration.
Effectivement, ça, donc le yoga, je pense tout de suite à la méditation quand tu dis
voilà.
Respiration.
Ouais. Ouais.
Enfin, tout est lié en fait. Hein. Ouais.
Tout est lié. Mais là, d'abord, ouais. t'as une couche, c'est voilà, ton énergie. Et pour monter ton énergie, pour gérer tes sauts d'énergie, il y a des exercices de respiration très particuliers. Ou tout simplement prendre 5 minutes à respirer, quoi. Doucement. Respiration abdominale. Et ça, c'est incroyable. Je me souviens ma prof qui me disait 6 respirations abdominales, et d'un seul coup, les choses ont changé, quoi. Tu vois?
Comme quoi, hein, c'est des choses simples, mais...
Qui marchent.
Est-ce que les maris peuvent faire des choses utiles aussi?
S'occuper de leur femme. Hein. Leur faire une tasse de thé. Hein. Et tu vois, tu mentionnes méditation et complètement. Et après, une autre couche, voilà, c'est le côté beaucoup plus... C'est revenir vers toi. C'est ce que disait un petit peu Guillemette tout à l'heure. C'est,
se recentrer.
Se recentrer. Qui suis-je? Je ne suis plus une femme qui peut procréer. Qui suis chez une femme qui voilà qui vieillit. Enfin, qui suis si j'ai plus toutes ces étiquettes en fait.
Mais alors d'un point de vue de parler de sexualité, est-ce que vu qu'il y a une chute hormonale, est-ce qu'il y a moins de désir? Est-ce qu'on devient
non.
Alors
je peux témoigner non.
Non. Alors en fait ce qui se passe,
bon, messieurs, rassurez-vous,
si on parle de désir et de perte de libido, Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que si on est sur une sexualité conventionnelle, c'est-à-dire celle qui est transmise par les médias, par les magazines, par le discours, qui est une sexualité basée sur le frottement, basée sur la friction entre les sexes de l'homme et de la femme, forcément, on arrive à un moment donné où cette sexualité-là, elle ne plaît plus à la femme. Très clairement. Alors, on peut pas associer cette perte de libido, cette perte de désir à une chute hormonale, comme on a pu l'associer, par exemple, à une femme qui vient d'accoucher, qui allaite et qui, pour le coup, a des hormones tournées vers son bébé plus que... Mais ça, c'est biologique. Hein. L'idée, c'est de faire grandir ton petit et pas d'en faire un autre dans la foulée. Mais conclusion, en fait, il y a à la ménopause un revirement. Il y a plus de désir pour la sexualité conventionnelle, par frottement, par sportive, dynamique.
Mais ça, on peut quand même noter que c'est la faute de tous les films pornographiques qui sont ouvertement distribués envers les adolescents et même avant l'adolescence. Malheureusement.
Ça peut être aussi la faute de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Hein. Qui parle librement de sexualité à ses enfants, etc. De plus en plus, le discours, il s'ouvre. Mais c'est quand même assez compliqué. Qu'est-ce qu'on en dit ? C'est chargé de tabous. Il y a l'espace de la religion aussi. La religion qui a souvent associé la sexualité à la procréation.
Ben oui.
On est d'accord que à partir du moment où il n'y a plus de procréation, pourquoi est-ce que tu ferais l'amour, franchement ?
Moi, je renverse la situation et je dis justement, une femme qui n'a plus peur de tomber enceinte peut avoir une sexualité carrément plus épanouie.
Oui, carrément.
Parce qu'il n'y a plus cette...
Oui, mais donc, comme tu dis, il faut se réaccorder avec l'homme, vu que par frottement, ça n'est plus la chose en priorité. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Mmh. Et ça aussi, ça s'apprend.
Eh oui, ça s'apprend.
Ouais.
Ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle sexualité consciente, c'est ce qu'on appelle slow sex. Ça s'apprend et aujourd'hui on en parle. Hein. C'est facile de trouver des informations là-dessus. Je vous renvoie sur mon blog. Hein.
Mais je pense
que les femmes en parlent, mais pas les hommes.
C'est dommage. Et encore que, puisqu'on est à Auckland, moi je pourrais parler de. Il y a des mouvements, et toi aussi Nadine, qui rassemblent les hommes à Auckland. Il y a Essentially Men, il y a.
Mankind Project.
Et là.
Il y a Gay Pride aussi, non?
Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une question d'orientation sexuelle, mais ce sont des hommes qui se rassemblent pour aborder ces sujets-là. Ouais, Pourquoi vous, en tant qu'homme, vous n'avez pas le droit de communiquer sur les sujets de la sexualité, la considérer autrement, vos émotions,
les
vous prendre
ne
dans les bras
leurs émotions comme les femmes le font, ils sont
mais parce qu'ils n'ont pas été autorisés. Et encore une fois, on en revient à une question c'était d'éducation, à une question de posture, de culture parentale, etc. Mais c'est bien dommage. Et moi, ce que je vois autour de moi, c'est que ces associations comme Essentially Men, je retiens pas le nom, désolé.
J'ai fait un week-end avec Essentially Men.
Alors?
Ouais, c'est bien. Hein. Y a que des mecs. Hein.
Ah bah c'est l'équivalent de nos cercles de femmes.
Donc on a en tant que femme plein de choses à mettre en œuvre, que ce soit psychologique, physique, mais l'homme a aussi des choses à apprendre pour accompagner la femme, enfin pour qu'il soit. Ils se retrouvent tous les deux.
Il a à apprendre dans le sens où il faut qu'il soit souple et qu'il ait lui aussi envie de changer. Je connais pas d'hommes qui se disent oh là là, j'ai 50 ans, moi c'est bon, ma vie est derrière moi, ça s'arrête, je veux plus de sexualité, Oh, c'est triste.
J'avais plus la vision inverse en disant j'ai 50 ans, je vais me prendre une petite jeune pour remettre du peps dans ma vie.
Si sa femme, elle est là pour remettre du peps.
Voilà. Donc mesdames, il ne faut pas baisser les bras, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre.
Faites-vous confiance, communiquez en couple. Il y a une retraite qui est formidable pour l'amour en conscience, qui s'appelle Faire l'amour en conscience en France, qui s'appelle la Making Love Retreat, ici en Nouvelle-Zélande ou en Australie, qui sont des retraites à faire en couple, qui sont absolument formidables.
On essaiera de mettre ça sur le blog. Tu me communiqueras tout ça, Guillemette,
bien sûr,
parce que je pense que.
Moi, je dis qu'il faut faire un sujet juste pour ça.
C'était le sujet la précédente émission où j'étais venue. On avait beaucoup parlé du désir de la femme, désirante,
ouais.
Justement.
Ah oui,
dernière fois.
Alors, tu disais que la glande que tu parlais tout à l'heure, c'est quoi, ça s'appelle comment?
La glande pituitaire.
Donc c'est à côté de la glande pinéale.
Ouais, mais t'as raison. En yoga, la glande pinéale a une signification importante parce qu'il l'associe à ce qu'ils disent au troisième œil.
Ouais, voilà. Et je regardais ce matin, je regardais un documentaire gratuit d'ailleurs sur Gaïa. Peut-être que vous le trouvez sur YouTube, je sais pas. Gaïa, c'est une.
Je connais. Hein,
c'est une chaîne.
Alternative.
Et il disait que tous les gouvernements depuis le nazisme mettaient en œuvre des poisons comme le fluor pour empêcher que les gens puissent avoir la fonction pleine de la glande pinéale, l'intuition et.
Je ne vois pas l'intérêt.
Pour transformer les gens un peu comme des moutons.
Voilà. Et ça marche bien, hein, ça marche bien. Mais du fluor, il y en a partout. Hein. Dans l'eau, dans la flotte, dans le dentifrice, dans. C'est les nazis qu'on mis ça en œuvre. Hein.
De toute façon, il faut revenir. Je regarde Annabelle à des choses, des produits authentiques, vrais et effectivement.
Après, ouais. Je ne veux pas me démonter, mais le naturel n'est pas forcément bon non plus. Hein. Dans la nature, il y a des choses très mauvaises. Donc, il ne faut pas non plus croire que parce qu'on mange naturel, c'est mieux. Il y a des choses que la science a montrées et qui sont bonnes pour nous dans la nourriture. Donc, il faut aussi faire attention. Genre, le lait cru, oui, c'est très bon, mais ça peut aussi être mortel. Enfin, il faut... Faire attention.
Voilà. Et surtout faire attention en fonction des métabolismes.
Oui.
Parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ouais. C'est pour ça que pour la ménopause, comme pour au sujet de l'alimentation.
Je trouve ça génial qu'on puisse mélanger le sujet du lait avec la ménopause.
Non, mais il n'y a pas de recette en fait.
Ouais.
Le secret, c'est quoi ? C'est soyez vigilant, soyez attentif à ce que vous êtes, à comment vous fonctionnez, à vos besoins propres, à comment votre corps réagit, que ce soit quand vous consommez tel ou tel produit ou quand...
Informez-vous, voilà. Parlez-en. Ouais.
C'est pour ça que le yoga, même sans même parler de ménopause, c'est pour ça que le yoga est tellement important parce qu'il rappelle aux gens de sentir, de vraiment sentir.
D'être dans le moment présent.
Dans le moment présent, surtout comment mon corps fonctionne. Tu vois, quand je m'étire, quelle muscle je sens, quand je stresse, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma respiration, et vraiment de devenir de plus en plus subtil. Parce qu'on vit tellement dans nos têtes, c'est comme si on était une tête qui marchait, quoi, c'est tout. Et on est un petit peu déconnecté du corps. Et c'est pour ça que les pratiques comme le yoga sont tellement bénéfiques,
finalement.
Pour rappeler aux gens de quoi ai-je besoin. Moi, je commence toujours avec mes cours en me disant de quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? De quoi avez-vous besoin physiquement ? Peut-être vous avez mal aux genoux, il va falloir adapter votre pratique. Peut-être vous avez des bouffées de chaleur. Et c'est toujours de quoi avez-vous besoin.
Tu les reconnectes avec leur corps, en fait. Elles doivent réfléchir.
Elles doivent sentir.
Ouais, elles doivent sentir. J'ai remarqué à l'école, pour les petits, ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils font des séances de mindfulness. Je ne sais pas si en France, c'est quelque chose de
populaire. D'ailleurs, c'est quoi la traduction ?
Méditation de pleine conscience.
C'est vrai qu'on peut accéder au cours de mindfulness et comme tu disais Nadine de méditation gratuitement à Auckland. Mais alors pour les auditeurs ou surtout les auditrices puisque tu as 90% de femmes, où est-ce qu'elles peuvent aller prendre des cours alors?
Les cours de yoga sont à travers tout Auckland. Moi je suis située à Wick. Et je donne des cours de groupe et cours particuliers et aussi des programmes. Mais les cours de yoga, il y en a un petit peu partout. Maintenant, c'est vraiment développé sur Auckland. Ouais. Après, là, je mettrai une note. Il faut simplement essayer si vous êtes nouveau dans le yoga et que ça vous intéresse. Je vous conseille d'aller essayer à plusieurs endroits et vraiment d'aller regarder ce qui vous convient parce qu'il y a plein de styles de yoga différents. Et en fonction de l'âge à laquelle vous avez et plein de choses, il y a des choses qui vont vous convenir ou pas. Donc vraiment, et pas baisser les bras, quoi. C'est surtout pas aller à un cours en disant « Ah mais non, vraiment, ça me plaît pas, le yoga, c'est pas pour moi. »
Et pour les hommes, c'est quoi pour les auditeurs ? C'était quoi le yoga dont tu parlais là,
Je parlais de Bikram Yoga.
Bikram Yoga.
C'est du yoga dans une salle chauffée à 42 degrés, avec une série de routines très particulières.
On maigrit en même temps ?
Je sais pas ce qu'on fait, mais...
c'est pas mon truc, quoi.
C'est pour les mecs, ils doivent se boire des bières en même temps. C'est tellement chaud. Hein.
Il nous reste combien de temps, Yvan ?
Il nous reste le temps de passer une chanson, alors.
Oh, déjà.
Ben ouais.
On va essayer de mettre donc, sur le blog plein de liens utiles, nécessaires même. Et ben on va déjà, on va peut-être dire au revoir avant de passer à la musique.
Parce bah oui.
On va peut-être.
Alors, merci.
Donc
de
c'est
nous
le printemps.
Inviter.
Merci d'être venu ici sur le plateau.
Ah, et date importante.
Ah, date importante.
Le 12 octobre, France-Angleterre.
France-Angleterre. Allez, bleu, on va y arriver.
C'est du rugby. Hein.
On va y arriver. Ah, ouais. C'est quand même. Surtout que c'était pas
gagné. Moi, je suis allé au pub voir parce que j'ai pas de télé. Et je suis allé au pub hier, j'ai pas bu, hein, pas une bière. Il y avait beaucoup de gens bourrés quand même. Et beaucoup
bizarre,
de, beaucoup de mecs
gens,
quand même. Hein.
C'est bon pour le business.
Qu'est-ce que tu nous mets comme dernière musique?
Peut-être que leur femme avait la ménopause. Ou...
Oh, qu'est-ce que tu nous mets comme musique?
Bah, je sais pas.
Parce qu'il suffit de regarder un rugbyman, ça, c'est assez engageant comme physique, je trouve.
Ouais.
Non? Le calendrier des rugbymen français, c'est
pas mal.
Chouette, hein?
Ouais. Je l'avais quand j'étais étudiante.
Guillemette, elle est ravie. Hein.
Ouais. Moi, j'ai mon rugbyman à la maison. Ah. Il est parfait.
C'est un kiwi?
Non, il est français.
Oh, français.
Voilà, français.
Rugbyman français?
Non, il n'est pas rugbyman. Oh, il a tout ce qu'il faut pour
correspondre
à l'idéal d'un rugbyman.
Oh, cool. Cool.
Bon, ben, on vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis
jeune
femme qui n'en promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main. Je suis cette femme qui ne vaut presque rien. Je suis cette femme qui s'est donné du bien. Ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'or. Sors-moi encore. Sors-moi de terre. Je suis presque zèle, presque bien. Je suis cette femme de n'avoir plus rien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme à maman la putain. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre. Serre-moi encore, serre-moi de terre, serre-moi encore. Je suis cette femme presque belle, presque bien. Je suis cette femme dont les hommes ont besoin. Je suis cette femme, la maman d'un putain. Je suis cette femme que le pavé a tué. Je suis cette femme, aux mille années volées. Je suis cette femme que les anges ont donnée. Je suis cette femme. Que la nuit va m'emmener. Serre-moi encore et ma peau va te plaire. Sors-moi de terre comme un semblant d'or. Je suis cette femme à qui l'on ne promet rien. Je suis cette femme qu'on ne prend pas par la main.
Pour en savoir plus sur nos émissions, rendez-vous sur notre blog amusegueule.co.nz.
Casse-toi de mes quais, tocard.